Mercredi dernier, il y a un groupe de complotistes aux États-Unis qui ont envahi le Capitole à Washington. On parle vraiment d'une insurrection là, envers la démocratie américaine. Et depuis, bien, le Parti démocrate aux États-Unis a entamé une procédure de destitution envers le président Donald Trump. Mais là, vous savez, des manifestations comme il y a eu aux États-Unis, on se dit « Ah, hein, ça se passe chez les autres. Ah ouais, des complotistes là, qui vont envahir le Capitole, ça pourrait pas nous arriver ici. » Bien, vous savez, sur Internet, là, c'est facile de trouver des informations qui sont erronées, mais des fois, à cause des réseaux sociaux, ça nous vient au visage et on ne fait pas nécessairement plus de recherches. Et ça, c'est des gens comme vous et moi qui peuvent lire des trucs, se dire, ben voyons, ça n'a pas d'allure, et là, continuer à faire leurs recherches, entre guillemets, comme on dit, et finalement tomber sur toutes sortes d'informations qui sont fausses. Bref, tomber là-dessus et juste s'enrager contre le système. Mais en fait, c'est écrit souvent par des gens qui ne connaissent pas nécessairement leur sujet. Hein. Donc, là, c'est arrivé aux États-Unis. Est-ce que ça pourrait nous arriver à nous aussi? Et qu'est-ce qui se passe avec toute cette procédure de destitution aux États-Unis? Bien, j'en parle aujourd'hui avec Frédéric Boily, politicologue. Bonjour, M. Boily.
Bonjour.
Bon, alors, comment ça se passe quand on veut destituer un président? J'imagine que ça se fait pas en claquant des doigts.
Non, et il ne faut pas que ça se fasse non plus en claquant des doigts, et ça se comprend parce que un processus de destitution ne doit se faire que s'il y a véritablement des motifs très sérieux de le faire. Et donc, au niveau américain, on a prévu cette procédure, mais une procédure donc qui doit recevoir l'assentiment du Congrès, Chambre des représentants et Sénat, et au Sénat aux deux tiers. D'ailleurs, c'est peut-être pourquoi le processus de destitution qui vient ou qui va être enclenché de manière plus formelle ne donnera peut-être pas de fruits, surtout que Donald Trump est encore président seulement pour quelques jours. Donc, la question qui se pose justement aux États-Unis et chez les constitutionnalistes, pardon, c'est de savoir précisément si on peut, lorsque Donald Trump ne sera plus président, continuer avec un processus de destitution. Et il y a également aussi l'autre procédure, c'est-à-dire le 25e amendement, où là, ça aurait été, dans un cas, par exemple, d'un président qui tombe complètement malade ou qui aurait une maladie véritablement qui l'empêcherait d'être président, et donc un processus qui permettrait, grâce au 25e amendement, de pouvoir donner le pouvoir finalement au vice-président, et donc dans ce cas-ci Mike Pence, qui semble cependant avoir fermé la porte à cette possibilité-là, d'où le processus de destitution qui, là maintenant, passe plutôt par le Congrès et par les démocrates tout particulièrement.
Mais c'est ça, parce qu'il reste quoi, 8 jours? Hein, c'est le 20 janvier qu'ils vont changer de président aux États-Unis. Donc, en 8 jours, est-ce que ça se fait, une destitution? Parce que me semble que c'est des longs processus, habituellement.
Non, en principe, il ne devrait pas y avoir le temps, d'abord parce que ça ne pourrait pas se faire avant le 19 ou 20 janvier. Donc, le temps manque d'une certaine façon. Et donc, toute la question, c'est de savoir si ça peut se faire et si le processus peut continuer après. Et là, il y a des avis divergents à savoir est-ce que c'est approprié de le faire. C'est-à-dire, sur le fond, oui, mais sur la forme et sur le message qu'on veut envoyer par la suite. Certains vont le justifier en disant qu'il faut absolument envoyer un message très fort que la démocratie américaine se tient debout devant les séditieux et devant Trump lui-même, et donc d'envoyer un message, un, pour qu'il ne soit pas capable non plus de se représenter si jamais il en avait l'envie dans 4 ans. Et d'autres qui vont dire, ben, peut-être que ça va au contraire donner du crédit à toutes les théories du complot, justement, comme quoi Washington se protège lui-même, l'élite de Washington se protège contre celui qui a voulu assécher le marais de Washington, comme Trump le disait lorsqu'il faisait campagne pour devenir président. Donc, c'est dans ce contexte-là où il y a la question du fond et la forme aussi, et les conséquences que ça pourrait avoir par la suite. Et surtout du côté des républicains. Et du côté des républicains, il y a un calcul stratégique et politique à savoir. Est-ce qu'on peut s'aliéner une partie de la base électorale de Trump, une base électorale dont le prochain candidat aura besoin de toute façon si on veut déplacer les démocrates à la présidence.
Mais là, en 8 jours, est-ce que Donald Trump peut quand même je sais pas, moi, faire passer des lois. Est-ce qu'il y a encore un certain pouvoir aux États-Unis malgré tout ce qu'il a fait?
Non, pour le moment, je pense que disons, son pouvoir de faire des choses est vraiment compromis, d'autant plus que on a vu des membres de sa garde rapprochée se distancier de lui. En fait, c'est vraiment la question du message qu'on veut envoyer, surtout la question de savoir si Trump peut se représenter ou non. C'est dans ce contexte-là que le processus de destitution a été enclenché, notamment par des démocrates qui disent qu'on ne peut pas laisser passer ça.
Ce qui est arrivé mercredi dernier là, à Washington, est-ce qu'on peut appeler ça un coup d'État? C'est quoi la définition d'un coup d'État?
Moi, j'appellerais pas ça, ouais, la définition d'un coup d'État, c'est vraiment lorsque un groupe armé, et généralement les coups d'État surviennent dans des démocraties faibles ou dans des régimes politiques qui passent de l'autoritarisme à la démocratie. Et là, justement, où on voit des coups d'État fomentés habituellement par l'armée ou des groupes séditieux à l'intérieur de l'armée qui n'acceptent pas le pouvoir et donc qui essaient de prendre le pouvoir. Parce que pour faire un coup d'État, ben, fatalement, ça prend habituellement une force armée. Donc, dans ce cas-là, on a plutôt l'impression que c'est de la sédition et que si les gens qui sont partis à l'assaut du Capitole croyaient faire un coup d'État, il est clair que le coup d'État aurait échoué très, très, très rapidement. Ça serait différent si, par exemple, il y avait une faction à l'intérieur de l'armée américaine importante qui appuierait tout ça. Là, on se retrouverait en fait dans un processus de guerre civile. Mais là, on est plus dans la politique fiction, quoique certaines ont évoqué que les gens qui ont pris d'assaut le Capitole pouvaient bénéficier d'un certain appui, disons,
Ouais, c'est ça, mais
officiel.
ouais, mais ça me fait peur parce que je suis allée voir sur Internet, là, dans certains groupes d'extrême droite aux États-Unis, là, et on planifie d'autres attaques. Et ça me fait vraiment, comment dire, capoter. Parce que je me dis, parce que là, ils veulent faire des attaques dans tous les États, s'en prendre encore une fois à Washington. Ils veulent faire des attaques le 16, le 17, le 18, le 19 et le 20 janvier. Et les Américains sont armés jusqu'aux dents. Au Canada, c'est pas facile d'acheter un fusil. On peut avoir des fusils de chasse, là, mais c'est pas mal la seule chose qu'on va avoir. Eux autres, là, aux États-Unis, là, ils peuvent avoir des fusils. Ils achètent ça quasiment au Walmart, là. Avez-vous peur de ça, vous?
Non, moi, je ne crains pas, disons, un soulèvement armé. Par contre, des attentats ponctuels dans certains États ou des manifestations, oui, ça, je pense que on peut craindre ça parce que l'ambiance politique ne date pas de la semaine dernière où cette ambiance très explosive, où cette polarisation politique s'est accentuée, en fait, depuis au moins 2 bonnes décennies. Ça a commencé avec les républicains sous George W. Bush et ça n'a pas cessé finalement de s'accentuer avec le mouvement du Tea Party aussi autour des années 2000. La crise financière de 2008 à cet égard-là a été importante parce qu'elle est venue élargir des failles qu'il y avait déjà dans la vie politique américaine, des fractures qui ont commencé à donc encore plus d'ampleur. Et finalement, Trump en a profité. C'est pour ça que Trump, d'une certaine façon, c'est aussi un symptôme de quelque chose qui se passait bien avant lui, donc bien avant 2016. Et lui en a profité, c'est clair. Et c'est pour ça que les États-Unis sont sur une sorte de lancée et savoir comment justement faire en sorte que les fractures, ne s'agrandissent pas, mais plutôt qu'on assiste à un processus de guérison d'une certaine façon. Est une question fondamentale aux États-Unis qui dépasse même les deux partis, mais on n'a pas l'impression qu'avec ce qui s'est passé la semaine dernière, on soit justement dans un processus de guérison loin de là.
Est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir des manifestations ici aussi? Probablement moins violentes, mais quand même.
Non, je ne pense pas, moi.
Non?
Pour le moment, non, je ne crains pas ça parce que l'on l'a vu avec l'élection, la dernière élection fédérale, où on a un parti politique qui a essayé de jouer un peu dans ces mêmes eaux-là, le Parti populaire de Maxime Bernier.
Ah
Et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Puis c'est pas parce que nécessairement on est meilleur que les autres ou on plante, disons, morale ou des valeurs politiques. C'est aussi parce que notre mode de scrutin décourage tout ça. Les partis politiques ici, c'est un mode de scrutin uninominal à un tour. Et donc, ça fait en sorte que vous pouvez avoir le pouvoir avec 40% des voix. Vous n'êtes pas obligé de former une coalition avec les autres, même lorsque vous êtes minoritaire, comme c'est le cas présentement à Ottawa. Le gouvernement peut continuer à essayer de gouverner comme s'il était majoritaire, habituellement moins longtemps quand il est évidemment un gouvernement minoritaire, mais ça donne une stabilité. On critique beaucoup notre mode de scrutin pour sa non-représentativité. C'est une critique qui est valable jusqu'à un certain point. Mais si on ne l'a pas abandonné, c'est précisément pour ça, c'est parce qu'un grand parti avec un peu même moins de 40% des voix, c'est le cas des derniers gouvernements, peut gouverner et les autres peuvent se faire entendre à la Chambre des communes.
Quand on se compare, on se console.
Exactement.
Frédéric Boilly, politicologue, merci beaucoup d'avoir été des nôtres.
C'est moi qui vous remercie.